Bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien pour vous parce que moi aujourd'hui, dans le ici maintenant, je dois vous avouer que s'il y a une rencontre qu'on doit écouter dans ce magnifique sommet, c'est celle-là. Je te dis, Jean-Marie, là, je suis tellement reconnaissant de vivre cette expérience-là avec toi. Puis, je le sais que plusieurs ici au Québec, Canada, te connaissent suite à tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. La télé, tes comédiens, tes animateurs, tes conférenciers, tes auteurs. Plein d'émissions t'as fait aussi avec tellement de brio pour te donner au suivant ta façon à toi. Les gens, on te connaît ici. Les gens de l'Europe qui sont là, il y en a plusieurs, je crois, qui vont te découvrir. Et comme j'ai mentionné, s'il y a une entrevue, une rencontre qu'on doit faire aujourd'hui, c'est celle-là ici. Parce que ce gars-là, il y a quelque chose qui éveille en moi et à tous les gens qu'il rencontre. En tout cas, c'est ce que j'entends parce que c'est un gars connecté avec sa vérité, avec l'authenticité. Et comme je dis souvent dans mes enseignements, c'est quoi l'authenticité? C'est le vécu présent. Puis toi, tu es connecté à ça. Alors, Jean-Marie Lapointe, merci d'avoir accepté, avec ton horaire si chargé, d'avoir accepté, bien, premièrement, de faire partie du sommet, accepter sa différence, accepter d'avoir écrit un chapitre dans le livre qui va sortir en janvier 2023, et d'avoir accepté aussi de trouver une place qu'on pouvait donner à 100% des sous, un organisme ici au Québec qui sont dans le besoin, des sous à cet organisme-là. Merci d'avoir accepté tout ça généreusement, Jean-Marie Lapointe, de l'homme de cœur que tu es. Alors, Jean-Marie, je te laisse les gens te découvrir avec ta magnifique voix, ton beau sourire. Merci.
Mais moi, là, je suis tellement dans merde parce que tout ce que tu viens de dire, la barre est tellement haute, j'ai quasiment envie de dire, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, je vous remercie. On reste là-dessus. C'est trop un beau pitch que tu viens de faire. Je peux juste le scraper. Écoute, Robert, je fais des blagues, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de partager une scène avec toi, une conférence, un échange, un livre, peu importe, il y a toujours quelque chose que je reçois tellement plus grand par rapport à l'investissement de temps que je dépose. Je reçois plus que ce que je donne, c'est clair. Et d'après moi, c'est le plus bel investissement. S'il fallait que dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on investit, autant dans le milieu financier, dans le bénévolat, dans tout ce qu'on fait dans notre travail, quand on a l'impression de recevoir tellement plus que ce qu'on investit, ben, on serait tellement rempli d'amour que le monde irait mieux. Et je pense pas que ce soit généralisé. Je ne pense pas que les gens comme toi et moi, parce que je sais que tu es pas mal identifié à ce que je viens de dire, tu en fais des choses, tu es très investi, tu donnes beaucoup de ton temps, mais je le sais que tu reçois plus que ce que tu peux donner. Je le sais, c'est ce qui te donne du gaz, c'est ce qui nous donne cette énergie et c'est ce que le Dalai Lama dit, qu'est-ce que de l'égoïsme intelligent. On fait des choses qui nous font du bien, mais on le sait que ça fait du bien à d'autres aussi. Mais ça nous fait du bien, ça me fait du bien, ça me nourrit. Tu disais dans le ici maintenant, il n'y a rien d'autre qui compte plus que ce qui se passe entre toi et moi. Et ça, c'est de la magie. Parce que ce n'est pas avec tous les êtres qu'on rencontre, avec toutes les personnes qu'on échange, qu'il y a ce niveau d'intensité et de magie. Et ça, je l'ai toujours, toujours avec toi, tout le temps. On est allé avec Chantal Lacroix l'année passée dans le sud à Cuba. Et toi et moi, le nombre de fois qu'on avait les yeux dans la graisse de Bine de par la qualité des échanges. Alors, pour nos amis français, francophones, suisses, avoir les yeux dans la graisse de Bine, c'est une expression d'avoir beaucoup d'émotions. On vit de l'émotion, on est dans un état de vulnérabilité et les larmes montent facilement aux yeux, tellement qu'on est rempli de gratitude, tellement qu'on ressent l'amour et l'énergie et l'émotion de. Écoute, c'est tellement intense qu'il faut que ça sorte. Si tu n'es pas capable de le sortir dans tes mots, ça va sortir dans tes yeux. Et j'aime carburer à ces moments-là. un peu comme d'avoir des fous rires. On est-tu content de vivre un fou rire dans une journée, mais d'avoir des moments de grande vulnérabilité, de grande intensité, je carbure à ça. Alors, faudrait que je sois complètement épais, inconscient, nono, de te refuser de faire du bien. Parce que c'est juste ça qui se passe quand on est ensemble, Robert. Et les gens qui nous voient être connectés à cette intensité-là, cette magnifique vulnérabilité-là, eux autres aussi la ressentent. Donc, ça devient contagieux. Donc, moi, c'est un immense préambule pour te dire merci de m'inviter à me faire du bien en faisant du bien. C'est aussi simple que ça.
Wow. Encore une fois, on pourrait couper ça, là, des mots. Merci beaucoup. Juste ça,
Santé.
c'est. Non, mais juste, qu'est-ce que tu viens de nommer? Tout est là. Parce que ça part de soi, hein? Ça part de nous. Puis en partant de soi, mais c'est ce que tu offres à l'autre. En l'offrant à l'autre, ça vient éveiller davantage cette intensité-là, comme tu mentionnes dans toi. C'est ça qui fait que ça crée la différence, hein, Jean-Marie?
Ben oui, puis tu sais, tu disais tantôt que tous les profits du sommet allaient être versés à une cause qui m'est chère. C'est l'œuvre de Johanna Contois. Je vais te la montrer.
Oui.
Parce que
Je veux qu'on prenne le
Johanna
temps
Contois.
de t'entendre cette histoire-là. J'aimerais tellement ça, ouais.
Ouais.
Fait qu'on pense à elle.
C'est. Ouais. Ouais.
Belle.
C'était ça, Johanna. Johanna Contois qui est décédée à l'âge de 14 ans d'un cancer. Et avant de mourir, elle a créé une fondation, la Fondation Espoir, qui est devenue un fonds de recherche dédié au cancer rare chez les enfants avec le CHU Sainte-Justine. Donc, la fondation du CHU Sainte-Justine nous donne, et ça aussi c'est extraordinaire, la possibilité de ramasser de l'argent pour la recherche des cancers rares, et la fondation se prend zéro frais d'administration. Donc, si on fait un don de 1 000 $, de 5 000, de 50 000, c'est 50 000 $ qui va directement à la recherche sans aucun frais d'administration. Ça, c'est un privilège. Alors, Johanna, qui crée cette fondation-là avant de mourir à l'âge de 14 ans, sa maman, Natacha, qui est la présidente du fonds de la fondation, j'en suis le fier vice-président. Quand tu m'as demandé à quelle cause tu voulais donner, avais-tu une suggestion, autant pour le livre que le sommet? Ben, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de le faire à une fondation qui porte le nom Espoir. Espoir, le fonds Espoir. Qui ne vit pas un moment de désespoir dans sa vie? Qui ne vit pas un moment de doute? Qui ne vit pas un moment de j'abandonne? On dit en anglais fuck it. Tu sais, oh, je lâche tout, j'abandonne. Qui n'a pas ces moments-là dans sa vie? Alors imagine quand toi, tu as un cancer, tu sais que tu vas mourir, ton corps, ton propre corps est en train de mourir tranquillement, pas vite. Tu as l'impression que ton propre corps t'abandonne, mais elle, la petite lumière vive dans ses yeux, dans son âme, elle dit non, 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 attends une minute. Oui. La mort est en train de s'emparer de mon corps, mais pas de mon âme. C'est toute la différence. Et quand tu accompagnes, comme j'ai le privilège de faire, de l'accompagnement avec des gens qui ont des limitations fonctionnelles, des gens qui sont en fin de vie, quand tu as ce privilège d'être aux côtés de ces gens-là, tu ne fais que qu'apprendre, tu ne fais qu'évoluer, tu ne fais que grandir. Donc, encore une fois, je cite le Dalai Lama, ça, c'est de l'égoïsme intelligent. C'est que je me fais du bien à côtoyer des gens qui m'illuminent de leur présence, de leur sagesse, peu importe leur âge, que ce soit des gens en situation d'itinérance, des personnes en fin de vie, des gens qui ont des handicaps, des gens qui vivent des grandes difficultés. Je carbure à ça parce que tout ça a un dénominateur commun, c'est la vérité. On ne peut pas être dans autre chose que dans la vérité. Quand on est justement confronté à des grandes souffrances, des grands défis, des grands états de vulnérabilité, on n'est que dans la vérité. Puis moi, je veux ça dans ma vie et j'ai surtout besoin de ça. Et plus je me colle à des personnes vraies, lumineuses, vulnérables et qui assument leur vulnérabilité, plus ça me nourrit et plus ça me donne du gaz dans mes projets. dans mon sport, dans mon bénévolat, tout est interrelié. J'ai besoin de ça pour fonctionner, pour vivre et surtout pour donner une direction et un sens à ma vie et aussi à ma souffrance et aussi à mes épreuves. Je ne souffre plus jamais seul. Je suis toujours accompagné maintenant.
Pas rien, hein. C'est ce que tu viens de nommer. J'adore tellement la vérité. Nous sommes que dans la vérité. Quand on touche justement au cœur de cette sensibilité, cette vulnérabilité, puis tu pars pas d'être là, Jean-Marie. Tu es devenu, suite à tes expériences de vie, la croisée des chemins. La croisée des chemins, pour toi, c'est un vécu quand même qu'on connaît ici au Québec, qu'on a entendu, tu sais, dans tes conférences, dans tes reportages, dans les interviews que tu as faites, qu'il y a eu même une fondation qui est Jean Lapointe quand même, qui n'est pas rien, hein, tu sais, pour les anonymes ou les gens qui ont
Qui
des
est mon
troubles
père?
quand même de substance, qui est ton père, qui ont donné son nom à ton père. Mais pour les gens qui sont ici maintenant, cette expérience, c'est de là que tu t'es bâti, c'est la base. C'est la base, c'est ta fondation, c'est ta relation avec ton père, ta mère. Tu as bâti à travers le vécu, cette solidité, cette vulnérabilité, si je peux dire ainsi, cette sensibilité-là, le don de soi, c'est parti de tout là. C'est ça que je veux que les gens comprennent, pour ceux qui sont ici et qui vivent une tempête présentement, mais cette tempête-là, il y a une richesse. C'est celle-là que j'aimerais que tu nous racontes, que tu nous relates, Jean-Marie. Où t'es parti, là? C'est pas rien, là.
Ben, je pense que le plus important à retenir dans l'histoire de ma vie, de la tienne aussi, c'est cette quantité de cadeaux mal emballés que la vie nous a envoyés et qui s'est avérée avec le temps, avec la sagesse, s'est avérée en mission et en rédemption. Je pense que je ne serais pas l'homme que je suis à 57 ans sans l'ensemble de mes épreuves, de souffrances, de doutes, de mes idées noires, de mes périodes de manque de lumière, de noirceur. Et jamais, quand on est dans le plus cru de notre souffrance, quand on manque d'outils, quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas de gens auprès de nous ou quand on ne sait pas quoi faire, c'est clair que le premier réflexe, c'est de penser. Dans mon cas, en tout cas, c'était de penser que j'étais seul au monde à vivre ça et de m'isoler dans ma souffrance, dans ma noirceur. Puis, je pense que maintenant, aujourd'hui, plus jamais je vais me sentir seul, même si c'est terrible, même si c'est souffrant, je le sais qu'il y en a d'autres qui sont passés par des étapes similaires aux miennes, par des épreuves similaires aux miennes et qui m'habitent maintenant, me donnent du courage, me donnent de la force pour trouver un sens à travers ça. Et la foi, c'est ça. C'est de croire que tout va faire sens à un moment donné. C'est ça, avoir la foi. Au-delà de la foi religieuse, chrétienne, catholique, la foi, cet espoir qui nous habite, qui nous dit, c'est tough, je ne sais pas par quel bout prendre ça, je ne sais pas par où passer, mais je sais qu'à un moment donné, je vais y trouver une porte de sortie, je vais trouver la lumière, je vais trouver un sens à tout ça. Et c'est ça, la foi. Ce que j'avais pas quand j'avais 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même 40 ans, ce que j'ai maintenant, hors de tout doute, je le sais qu'aujourd'hui, peu importe l'épreuve ou le cadeau mal emballé que la vie va m'amener, je le sais qu'il y a en moi cette résilience, cette foi, cette force qui sait que, OK, ça va servir un jour, ça va aider d'autres personnes, ça me donne du gaz, ça me donne du courage que je ne souffre pas seul et je ne souffre pas pour rien parce qu'un jour, à mon tour, ce que je vis va servir à quelqu'un d'autre et qui lui va servir de ça pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu disais tantôt donner au suivant. Ben, donner au suivant, c'est pas juste de l'abondance financière puis des cadeaux. Donner au suivant, c'est de partager l'ensemble de notre résilience. Ce qui fait sens à notre vie, à nos souffrances, de l'offrir à d'autres. Donc, ça, pour moi, peu importe ce que j'ai vécu, parce que tu faisais référence à l'alcoolisme, à la toxicomanie, le gambling, de mon père, les problèmes de dépendance de ma mère et tout ça, tout ce qu'on a pu vivre, mes sœurs et moi, dans ma famille, dans la grande famille aussi, c'est sûr que ça nous a quelque part programmé en nous. C'est installé en nous, c'est programmé. Je ne m'identifie pas à cette souffrance-là. Elle fait partie de moi, mais je ne suis pas la souffrance. Je ne peux pas m'identifier à cette souffrance-là parce que ça me limiterait. Oui, j'ai eu des troubles alimentaires, mais je voudrais jamais dire que je suis anorexique ou je suis boulimique. J'ai eu un trouble alimentaire, j'ai vécu un trouble alimentaire, j'ai eu des périodes de dépression, des périodes de noirceur, des problèmes de consommation, de dépendance, mais je ne veux pas m'identifier à je suis ça ou je suis ça ou non. Non, non, non. Ça fait partie de mon bagage, tu sais. Ça fait partie de mon bagage. Donc, te parler de ça, par quel bout commencer, ça équivaut à te dire, ben, à quelle température l'eau commence à bouillir.
Est-ce qu'on pourrait
Attends.
dire, Jean-Marie, la première chose à faire
Ouais.
dans tout ce que j'entends, et tu pourrais renforcer là-dessus, sortir de l'isolement affectif, de ne pas rester
Ah
seul.
ouais.
Comme tu as mentionné, quand on pense qu'on est seul à vivre ça, là, c'est là qu'on doit prendre le chemin et dire, OK, je dois en parler. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La première chose, c'est de sortir de l'isolement affectif. Peu importe, le problème soit petit ou grand, d'en parler, de ne pas rester seul avec.
Robert, tu as entièrement raison. Est-ce que c'est le réflexe principal de la personne qui souffre de vouloir en parler? Je ne pense pas. Premièrement, quand on vit quelque chose de difficile, le fait qu'on se dise dès le départ, attends une minute, là, je vais essayer de trouver un sens à ça, je vais essayer de trouver une solution. Bien là, on n'a pas encore parlé, on se parle à soi-même et on essaie de trouver une solution. J'aimerais ça te dire que on dirait que dans notre société nord-américaine, de ma génération et celle de mes parents, les hommes ont tendance beaucoup à avoir ce réflexe-là de, avant de demander de l'aide, attends, je vais m'arranger tout seul, je vais essayer de le
Marie
gérer moi-même. Tu sais, il y a encore parfois, je le vois dans beaucoup de situations, cette espèce de honte silencieuse des hommes ou cette gêne d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Je le vois encore malheureusement. Puis c'est pas réservé qu'aux hommes. Il y a des femmes qui ont le même réflexe aussi, mais je l'ai vu beaucoup chez les hommes. Donc, ce que je te dirais, ce premier réflexe-là d'en parler, il est pas automatique, mais c'est la solution. Il faut en parler. Et généralement, quand on vit cette espèce de malaise-là, il y a un inconfort. On vit des émotions inconfortables. On n'est pas bien. Moi, je suis rendu allergique à l'inconfort. Dès que je ressens un inconfort, une émotion conflictuelle, j'essaie d'y voir clair. J'essaie de comprendre qu'est-ce que je vis. Et généralement, ce qui m'aide à voir clair, communiquer, mettre des mots sur des mots. Ça, c'est une des belles citations que j'ai apprises dans les dernières années de Guy Corneau, ce grand psychanalyste qui avait dit, lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Ça, là, ça, c'est fabuleux. Quand on apprend à exprimer notre mal-être, nos émotions, les conflits intérieurs, quand on apprend à en parler, déjà, il y a un étau qui se desserre. Déjà, sans même avoir eu une solution, juste le fait de l'avoir nommé, là, il y a un dégagement, il y a quelque chose que, oh mon Dieu, je suis déjà plus capable de respirer, là. J'ai un peu plus d'air qui rentre dans mes poumons. Ben, ça, c'est révolutionnaire pour moi. Donc, oui, Robert, alléluia, d'en parler, parler de sa souffrance, parler de son isolement, parler de ses peurs, parler de sa solitude, parler de pipi. Mais mon Dieu, qui en a pas de ces sentiments-là? Tout le monde. Donc, déjà là, quand
Bon,
toi,
peu
tu
importe
viens me
les études,
voir, hein?
peu
Quoi?
importe nos études, peu
Non,
importe, on
non.
est des humains avant tout. Puis je rajouterais à ça, hein, à qui en parler? C'est là qui devient important parce qu'on a un environnement, la moyenne selon Jim Rohn, j'aime ça, ce qu'il dit, c'est entre les 5 et 8 personnes qu'on côtoie le plus. Parfois, les gens dans notre environnement, c'est peut-être pas les gens qui sont outillés pour en parler. C'est là qu'il faut sortir de son environnement, oser aller plus loin dans ses recherches pour être entendu. Puis quand on parle de vraiment
Oui.
s'exprimer, c'est d'avoir quelqu'un, pas qui tombe dans le conseil ou qui tombe à nous dire quoi faire, plutôt juste, t'sais, puis ouvrir. C'est ça qu'on a besoin, juste dire qu'on crée à l'intérieur de soi un sentiment de sécurité, un sentiment que je me sens entendu. Je me sens invité par l'autre à verbaliser, exprimer ce qui est là.
Mon père m'avait donné comme premier conseil quand j'ai commencé à faire des entrevues à la télé, à la radio, comme animateur, intervieweur. Il dit, Jean-Marie, tu as deux oreilles, tu as une bouche, écoute deux fois plus que tu parles. C'est exactement ce que tu viens de mettre en application dans le concret. Puis il faut pas oublier une chose, parce que oui, on est entouré de gens qui nous aiment, qui sont attachés à nous et qui n'ont pas toujours cette capacité de recevoir notre souffrance sans intervenir. Parce qu'eux autres aussi, ils se sentent impuissants bien souvent dans notre souffrance. Et souvent, l'antidote à l'impuissance, c'est hey, l'action. OK, on va faire quelque chose. On va te régler ça. Moi, te régler ça, moi, tu sais. Mais attends, c'est pas ce que je t'ai demandé et c'est peut-être même pas mon intention que tu règles mon problème. C'est déjà là, peut-on créer un espace dans nos amitiés, dans notre entourage? Et s'il le faut, on va aller chercher un professionnel, créons un espace où tout peut être dit sans jugement, avec bienveillance. C'est pas tout le monde qui est capable d'offrir cette bienveillance-là et de ce non-jugement-là. Donc ça, pour moi, quand j'ai ça autour de moi, c'est déjà une grande partie de la solution qui est en train de s'installer tranquillement. C'est que j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un groupe, j'ai trouvé des gens avec qui je pouvais être dans un total état de grande vulnérabilité puis de perdition dans ma tête puis dans mon cœur, puis que les gens me regardent puis qu'ils me jugent pas puis qu'ils m'écoutent puis qu'ils m'accompagnent à mon rythme, pas à leur rythme, à mon rythme. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver. Donc oui, tu as raison. La communication, en parler, bien choisir à qui en parler aussi, et ça fait une grande différence
Oui, une grande
majeure.
différence. Puis, Jean-Marie, je veux qu'on y aille à une place que tu m'as tellement fait rire, puis en même temps tellement touchant, quand tu as commencé à faire du bénévolat pour les handicapés. Cette différence, comment est-ce qu'elle venait te chercher au début, parce que c'était nouveau pour toi, là, tu sais, c'était quelque chose que, comment j'agis, moi, avec ça, tu sais? Puis tout ce qu'ils t'ont fait aussi vivre comme amour, mais aussi des coups qu'ils te faisaient pour te taquiner. J'aimerais que tu racontes quand tu es la personne qui est en chaise roulante, puis elle a de la difficulté à verbaliser, exprimer, comment elle t'a vu, elle t'a entendu dans ton non-dit.
Si tu me donnes pas un beau rôle là.
Mais
Là,
tu es
écoute, c'est
tellement
correct.
authentique, tu sais, ça raconte tellement avec une belle sagesse et une belle authenticité que.
Écoute, c'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce que plus tôt aujourd'hui, je faisais une entrevue au téléphone avec une dame qui fait du bénévolat au parrainage civique. Parrainage civique, c'est un endroit où il y a du jumelage. Il y a un parrain, il y a une marraine qui est jumelée avec une personne qui a une différence fonctionnelle, qui a une limitation intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Bref, tout ça pour dire, les gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont un trouble du spectre de l'autisme, de par leur agir, leur façon d'être, parfois ça dérange parce que ils se comportent de façon tellement spectaculaire et ordinaire qu'on n'est pas habitué à ça. Puis quand je dis spectaculaire, c'est que comme mon ami Jonathan Larose, qui a une trisomie 21, mais Jonathan, lui, c'est le maître du moment présent. Il est tout le temps dans l'instant présent. Alors, il va dire tout haut ce que bien des gens pensent tout bas, puis qu'ils n'oseraient pas dire tout haut. Lui, il n'y a pas de filtre. Alors, quand tu côtoies des gens comme Jonathan, qui n'a pas de filtre, c'est spécial au début, parce que s'il te trouve laid, tu te le dis. S'il trouve que tu pues, il te le dit. Mais s'il t'aime, il te fait un câlin, puis il te le dit. Donc, il y a cette espèce de pureté-là dans le non-jugement de sa personne qui, au début, c'est spécial, mais aujourd'hui, je veux dire, j'en ai besoin, là, il m'a contaminé, je suis devenu un peu comme lui. Donc, les gens qui ont une limitation fonctionnelle, plus on les côtoie, moins on voit leurs limitations. Par contre, il y a des limitations fonctionnelles qui sont peut-être un peu plus spectaculaires que d'autres, où ça paraît dans leur corps, parce que premièrement, ils sont dans un fauteuil roulant, dans une marchette. Puis quand tu parles de l'exemple tantôt, ben mon ami Daniel, que j'ai rencontré au défi sportif Altergo, qui est un événement majeur qui met en vedette des gens qui ont des limitations fonctionnelles, ça devient des jeux un peu olympiques pour ces gens-là, pour les jeunes et les moins jeunes. Tu as des jeunes des écoles spécialisées ou tu as des professionnels presque du sport adapté qui sont là. Bref, au défi sportif comme porte-parole, j'en ai côtoyé des gens. Puis au tout début, si je recule il y a une vingtaine d'années, j'étais pas le même gars par rapport à mon ouverture à cette différence-là et surtout à façon maintenant de célébrer cette différence-là. Au début, bien, il y avait des différences que je tenais loin un peu. Puis l'exemple de Daniel qui avait une paralysie cérébrale, puis il était quand même assez hypothéqué dans le sens que il y avait des spasmes, il était limité à un fauteuil roulant, donc il était un peu emprisonné dans son corps. Son cerveau fonctionne super bien, mais c'est juste que quand il envoie une commande à ses bras, à sa bouche, à ses yeux, ça va pas tout le temps dans la même façon que toi puis moi. Puis il parlait beaucoup en disant, puis c'est pas toujours clair quand il me parle. Je comprenais pas tout le temps quand il me parlait. Et au tout début, il y a une vingtaine d'années, quand je le côtoyais, j'étais subitement pris d'un malaise. Je le côtoyais et quand il me parlait, puis que je comprenais pas, puis je voyais les autres autour qui semblaient avoir compris, je me sentais bien épais, bien incompétent. Je me dis, comment ça que je comprends pas? Et là, je sentais une pression monter en moi, puis j'aimais pas ce sentiment-là d'être incompétent, impuissant et surtout pas savoir quoi dire, pas savoir quoi faire. Et plutôt que d'accueillir cet état-là, ben, je faisais semblant de comprendre. Alors, quand Daniel me parlait du haut de ses spasmes et de son fauteuil roulant, je faisais très, très, très souvent semblant de le comprendre ou, et ça, c'est assez, assez maladroit de ma part, mais c'était le moyen que j'utilisais à ce moment-là. J'évitais le contact avec Daniel parce que j'évitais mon sentiment d'impuissance. J'évitais mon sentiment de ne pas être à la hauteur du rôle de porte-parole que j'étais, de ne pas être capable de le comprendre. Donc, quand il venait vers moi, ben, je me trouvais une façon de l'éviter. Je rentrais dans une porte, je me trouvais autre chose à faire, ou pire que ça, j'ai un téléphone pas loin. Je prenais mon téléphone cellulaire, puis je faisais semblant d'avoir un appel à faire pour pouvoir parler au téléphone afin d'éviter une conversation avec Daniel parce que je ne le
À ce
comprenais pas.
moment-là,
Et
le seul souhait que tu as, faut pas qu'il sonne.
là, j'ai une deuxième ligne. Ben oui, tout le monde l'a entendu que tu as une deuxième ligne épais. Mais tu comprends qu'à ce moment-là, à cette étape-là de ma vie, il y a 15-20 ans facile, je me sens pas à la hauteur de la performance que je voulais donner comme porte-parole, d'être capable d'être adéquat à la hauteur dans toute situation. Puis, c'est comme si je m'en voulais de ne pas être capable de le comprendre. Donc, je me mettais beaucoup de pression et ce que je faisais pour l'éviter m'aidait. C'était le moyen habile que j'avais trouvé parce que quand je faisais semblant de le comprendre, ça marchait. Quand je l'évitais, ça fonctionnait. Quand je faisais semblant d'avoir un appel, ça fonctionnait. Et à un moment donné, je suis en train de regarder un sport, une game de hockey qui se joue. J'écoute la game, je regarde le match, j'encourage les athlètes qui ont des limitations fonctionnelles et tout. Et évidemment, le beau Daniel vient se parquer avec son petit fauteuil électrique juste à côté de moi. Puis lui, là, il est content de me voir. Il a de la jasette. Il veut échanger avec moi. Il me demande allô. Puis là, il me parle. Puis il se fait aller comme ça. Puis là, je dis, oh, fuck. Et là, je fouille dans mes poches. J'ai pas mon téléphone. Je suis dans la merde. Je peux pas faire semblant d'avoir un appel. Je suis vraiment pogné à côté de lui. Et là, je le regarde qui me parle. Je le regarde. J'essaie de comprendre. Et je comprends pas. Je comprends pas. Et encore une fois, ça a marché par le passé, je fais semblant de l'avoir compris. Je fais semblant de l'avoir entendu. Un petit silence. Moi, je reviens à mon match de hockey, je regarde. Plutôt qu'il se pousse, non, je le vois qui se rapproche. Je sens même son fauteuil électrique se rapprocher de moi au point de m'accrocher la jambe. Là, je me sens insulté. C'est un peu comme, tu sais, quand quelqu'un veut
Ah,
avoir
ici,
ton attention, puis il fait hey, hey. Hey, 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 moi des hey, hey de même, là, je trouve ça insultant. Alors là, je le regarde, puis là, je dis, quoi? Un peu même presque sur le bord d'être en colère de me faire gosser de même. Je dis, hey, quoi? Et là, il me répond, t'as pas compris, hein, ce que je t'ai dit, t'as fait semblant. Hey. Là, il venait de me déculotter devant tout le monde. Et là, je le regarde et j'ai pas le choix de dire la vérité. Je suis faite. Comme un enfant qui est pris au piège, là, puis qui a aucune excuse, ben moi, je regarde Daniel puis je dis, ouais, t'as raison. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Excuse-moi. Daniel de prendre le micro, de parler, une expression, il n'a pas dit ça dans tout le monde, mais là, il me parle. Et je vous le jure, j'ai tout compris. Tout compris. J'étais là, là, pendu à ses lèvres, et là, la leçon d'humilité commence. Il me dit, Jean-Marie, c'est correct que tu ne comprennes pas. J'ai la paralysie cérébrale. C'est pas tout le temps clair. Mais s'il te plaît, demande-moi de répéter 5 fois, 10 fois, 20 fois. Ça me dérange pas. Je suis un professionnel de la répète. Je fais ça à longueur de journée. Alors, quand tu prends le temps d'être avec moi pendant 5 minutes, même si on s'est échangé quelques phrases, c'est peut-être le seul moment de ma journée où un être humain va s'être intéressé à moi. Ça, là, tu pourrais jamais, jamais oublier cette leçon-là. Parce que ça fait vivre en moi tout le rejet. Tout le rejet que ce garçon-là, il vit à longueur de journée, que je lui fais subir, ça fait monter en moi, moi-même, mes expériences de rejet que j'ai souffert, qui m'ont fait souffrir. Et là, tabarouette, c'est ce que je lui inflige à chaque fois que je fais semblant. C'est comme si je l'insultais. C'est comme si je lui ramenais à une valeur que je considère à ses yeux comme étant moins 20. Ah, tu vaux moins qu'un être humain qui n'a pas de handicap. C'est ça que je lui fais vivre, du rejet. Et aussi, c'est comme si je le discréditais. Je le discréditais, je le traitais comme un sous-humain dégueulasse. Il m'envoie ça comme message et là, je comprends. OK. OK, c'est comme ça que tu te sens. C'est comme ça que toutes les personnes qui ont des limitations se sentent quand on ne prend pas le temps d'être avec eux et qu'on fait pire, semblant d'être avec eux. Parce que quand je fais semblant de l'entendre puis de comprendre, je fais semblant d'être avec lui. Je ne suis pas totalement avec lui. Alors, la leçon n'est pas encore terminée. Le beau Daniel continue. Il me dit, et Jean-Marie, quand tu prends ton téléphone cellulaire, là, j'ai tout compris. Ça, c'est effrayant. Il avait compris, il avait vu dans ma face que je n'étais pas bien avec lui, que je faisais semblant de faire des appels parce que j'osais pas être avec lui. J'osais pas être avec sa différence. Je restais dans l'indifférence. C'est pire! C'est pire! C'est comme si j'étais indifférent à toi. Ben, tu peux pas être indifférent. C'est juste que j'étais pas capable d'être en contact avec cette espèce d'impuissance-là. Et le moyen habile que j'avais utilisé, que j'avais trouvé, c'était le téléphone. Donc là, il me dit, ton téléphone, laisse-le dans tes poches. C'est ça que ça veut dire. Fais pas semblant d'avoir de quoi à faire. C'est de prendre un petit détour, de m'éviter. Regarde-moi. Regarde-moi. Parle-moi. Reste avec moi.
Avec l'expérience que tu as à travers cette expérience-là, pour les gens qui écoutent et qui vivent peut-être des choses similaires, est-ce qu'on pourrait dire, avec l'expérience que tu as, d'arriver à dire à la personne, écoute, là, présentement, j'ai un malaise avec qu'est-ce que tu me dis, avec qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ou je suis inconfortable avec ça, fait que j'ai besoin de te le dire, le but, c'est pas de m'éloigner, mais plutôt de comprendre pourquoi que j'agis de telle façon. Ça pourrait être ça aujourd'hui?
Ça se dit. Tout ce qui peut se dire, genre, je comprends pas, je suis désolé, j'ai de la difficulté à te comprendre. Probablement parce que je ne côtoie pas des gens qui ont une paralysie cérébrale ou une difficulté d'élocution. C'est difficile pour moi de te comprendre, mais si tu me promets d'être patient avec toi, si tu promets d'être patient avec moi, je vais rester, je vais te demander de répéter. Ben oui, ça se dit. Tu peux le dire, c'est ce que je fais maintenant.
Jean-Marie, ça peut être nos enfants qui vivent une difficulté dans l'alcoolisme ou dans des substances. Puis nous, en tant que parents, on agit comme parents, puis on devient des parents autoritaires, mais parfois d'autorité malsaine en gueulant ou en parce qu'on vit de l'insécurité. Tandis que là, si on dirait, je comprends pas ce que tu vis, je sais pas ce qui est là, de dire comment est-ce que je me sens en tant que parent, de dire, je vis un malaise présentement avec qu'est-ce que je vois, j'ai besoin de te dire. Je crois que ça rouvrait peut-être une ouverture à l'enfant de dire, crime. OK, là, mes parents ne chialent plus, ne critiquent plus. Ils sont en train de me dire qu'ils vivent de quoi à travers ce que je vis, moi. La même chose
Écoute,
peut-être avec
tout
un
ça.
frère, une soeur, un ami, tu sais, on n'a peut-être pas l'outil.
Tout ce que tu viens de dire, tu peux le décliner avec des gens en situation d'itinérance, des sans domicile fixe, des gens qui sont dans la rue. On a de la misère parfois à côtoyer ces gens-là parce que c'est vrai que la souffrance humaine nous fait de la peine, nous dérange, on ne sait pas comment intervenir, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et souvent, on fait de l'évitement volontaire, on évite, c'est de l'indifférence volontaire, un peu comme j'ai fait avec Daniel. Mais en même temps, je pense que c'est juste normal d'avoir peur de cette différence-là parce que la différence, on ne la côtoie pas assez, on ne l'inclut pas assez dans la société et surtout, on ne la regarde pas en pleine face. Donc, à partir du moment où tu découvres que le gars dans la rue qui s'est ramassé dans la rue, il avait une histoire, il s'est passé de quoi dans sa vie, qu'il l'a propulsé dans la rue, il y a eu un problème de dépression, ses parents l'ont abandonné, il a été abusé, la drogue, l'alcool qu'il consomme, c'est pas pour faire la fête, c'est pour soigner un mal de vivre. Quand tu viens à comprendre ça, tu ne le regardes plus de la même façon. Donc, de l'état d'ignorance qu'on était avant, là, on découvre qu'il y a une histoire derrière et là, de cette ignorance-là, c'est transformé en bienveillance et en compassion. C'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut aussi se tasser de l'équation. Il faut enlever son ego de l'équation, comme avec Daniel. Il venait de fracasser mon ego, là. Il venait de le piétiner gentiment pour laisser place à quoi? Ben, le plus bel état que je suis, mon état de vulnérabilité, que je mets au service de la rencontre, que je mets au service de la relation, que je lui montre mon état de vulnérabilité me rapproche du sien. Et là, il y a rencontre. Il y a une chimie. Il y a une connexion qui se crée. Et maintenant, quand je revois Daniel ou tout autre Daniel, je ne peux plus faire semblant. Et je n'ai pas envie de faire semblant. Plutôt, ben, si je comprends pas, je vais demander qu'il me répète. Et s'il faut que je répète, qu'il me répète 5 fois parce que j'ai pas compris, ben, je le sais maintenant que ce temps-là que j'ai passé avec lui, c'est un temps où j'ai considéré cet être humain-là et que si j'inversais les rôles et que moi j'étais pris dans son corps, que moi j'étais prisonnier d'un fauteuil ou d'une maladie ou d'un état, maudit que j'aimerais ça qu'on prenne du temps pour moi. J'aimerais ça. Ouais, c'est un cadeau. Et un peu comme quand un enfant, un parent ou quelqu'un me demande de l'accompagner dans ses derniers instants de vie, ses dernières semaines, ses derniers mois, c'est un cadeau. Pourquoi? Moi, j'inverse les rôles. Moi, je suis sur mon lit de mort. Il me reste quelques semaines à vivre, quelques jours. Je peux te dire, mon beau Robert, que je vais choisir méticuleusement les gens avec qui je vais passer ces heures qui sont comptées. Hein? Comme le Mathieu Ricard dit souvent, le temps, c'est de l'or liquide qui nous file entre les doigts. Mais ce temps-là qui me file entre les doigts, parce que je sais qu'il y a une date d'expiration qui s'en vient, mais je vais choisir les gens avec qui je veux passer ce temps précieux-là. Alors moi, on me demande d'accompagner des gens en fin de vie pendant ce temps précieux-là. Ben, c'est pas ça un cadeau. C'est ça un cadeau. Mais c'est un cadeau précieux et c'est un cadeau que je continue de déballer 15 ans, 20 ans après le décès de la personne. Et je garde aussi vivante cette personne-là autrement. Tu sais, Marie de Henzel avait dit: la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Alors moi, quand je te parle de Johanna Comtois, ben je la garde vivante. Elle est vivante en moi, elle est vivante en toi. Je te la fais découvrir maintenant. Donc ça, pour moi, c'est des apprentissages qui sont précieux. Et quand j'ai l'occasion d'en parler, je transmets cet apprentissage-là, je le partage et j'espère et j'ose croire que les gens qui vont nous entendre cet échange-là, qui vont nous entendre ensemble, vont se dire: OK, ça, j'ai pris ça, j'ai capté ça. Oh oui, ça, c'est intéressant. C'est ça qu'on veut faire, dans le fond, avec le sommet. On veut partager, offrir et faire du bien, ultimement, là.
C'est le but et l'intention. Puis, tu me permets-tu de raconter une petite histoire, Jean-Marie, qui est vraie, que j'ai eu ça d'un des mentors que j'avais, André Blanchard, dans le temps, un homme extraordinaire. Puis, cette histoire, puis, je te rajoute des choses par la suite. C'est un joueur de football, je vous raccourcis, là, je vais vous épargner tous les détails. C'est un joueur de football qui veut jouer dans une ligue universitaire. Mais c'est un joueur moyen, fait qu'il envoie son CV partout, partout où il y a des équipes de football à travers la planète. Et il envoie ça, et il y a une équipe qui l'a invité. Cette équipe-là l'invite. Quelques jours avant de couper les 3 derniers joueurs, le coach le fait venir dans son bureau et dit: écoute, Probablement qu'on va t'envoyer, mais on a des questions pour toi. Si jamais on te garde, est-ce que tu es prêt à jouer sur le banc la plupart du temps? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes maximum par match. Des fois, tu ne joueras pas du tout. Est-ce que tu serais prêt à rester? Il dit, coach, c'est mon rêve d'enfance de jouer dans une ligue universitaire au football. Alors, je suis prêt à donner l'eau avec co coéquipier si je reste. Ils l'ont gardé. Alors, tout le long de l'année, il ne joue pas 1 minute, 2, des fois 5. Et il est bien heureux avec ça et il se rend en Syrie. Et là, en Syrie, il reçoit un téléphone de la maison pour dire que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture. Bon, le coach raconte ça, le coach garde, pack tes choses, va chez toi, fais ce que tu as à faire, on se revoit l'année prochaine. Il part et l'équipe se rend en finale. Et là, en finale, la veille, il arrive sur le terrain. Le coach te regarde, dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, coach, tu fais ce que j'avais à faire. Chez moi, j'ai enterré mes parents, tout est beau. Il reste une partie demain. Demain, c'est le championnat. On peut le remporter. Coach, je t'ai jamais, jamais rien demandé depuis le début. Je te demande à jouer les 5 premières minutes du match. Je t'ai jamais rien demandé, coach, s'il te plaît. Là, le coach te regarde, écoute, je peux pas te faire jouer. On peut gagner le championnat. Je peux pas t'offrir 5 minutes. Là, écoute, gars, je te mets 1 minute, 2 minutes. Si tu fais rien, je te débarque. Merci, coach. Merci, coach. Imagine-toi qui embarque sur le terrain le lendemain, partie du championnat, 30 secondes, il reçoit le ballon, pouf, touchdown. Et dans la partie, il a resté là presque toute la partie, il a fait 4 touchdowns, il fait gagner son équipe. Qu'est-ce qui se passe? La
Wow.
champagne, tout. À la fin, là, le coach le fait venir dans son bureau, il s'assoit en face du coach. Là, il dit, tu vas me dire ce qui s'est passé chez toi. Ton CV, quand j'ai reçu, ton CV de tout ce que tu avais joué dans ta vie, j'ai jamais vu que tu avais fait ça dans une des parties. Puis je t'ai vu jouer toute l'année, ça n'a jamais arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Il s'est avancé, puis a regardé le coach droit dans les yeux, puis il a dit, coach, mon père était aveugle. Et de là-haut, c'est la première fois qu'il me voit jouer. Alors, les amis qui sont là aujourd'hui, il y a des gens qui nous voient jouer. Ces gens-là, des fois, c'est les gens qu'on aime le plus. Alors, accepter cette différence, ça commence par soi. Puis Jean-Marie, tout ce qu'il vient de nous raconter, il y a des pépites d'or. Je vous invite à aller le réécouter, 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 parce que si on apprend chacun de nous d'accepter qui nous sommes, c'est là que je peux accepter l'autre. L'autre, il nous démontre ce qu'on n'accepte pas de nous. Des gens qui alors, Jean-Marie, pour le mot de la fin, arrange-toi avec ça.
Tu parles d'un cadeau mal emballé, toi. Arrange-toi avec ça. Ouais. Attends. C'est tellement touchant ton histoire de joueur de football. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est faire ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous fait vibrer du plus profond de notre âme, du plus profond de notre cœur. Puis pour nous faire vibrer, il y a plein de chemins qui mènent à cette vibration intérieure-là. Parfois, on est chanceux, on trouve rapidement nos sources de joie profonde dans le sport, dans le bénévolat, dans le travail, dans nos relations amoureuses, interpersonnelles. D'autres fois, c'est pas toujours aussi évident. Puis moi, je pense que la méthode pour y arriver, c'est Michel-Ange qui l'a dans une belle métaphore. Moi aussi, j'aime ça raconter des histoires comme toi. Puis t'es un beau conteur. Tu m'inspires d'ailleurs à raconter des histoires. Dans la façon que tu prends tes pauses, dans la façon que tu nous proposes des images dans nos têtes quand on embarque avec toi. Michel-Ange, évidemment, comme grand artiste à son époque, Les gens le vénéraient, les gens l'admiraient et ça lui arrivait de donner des classes de maître, ce qu'on appelle en anglais des masterclass. Donc, il invitait des gens à lui poser des questions et il y avait des contemporains, il y avait des artistes, il y avait des élèves qui venaient le voir. Puis à un moment donné, il y a un élève qui lui pose une question dans sa classe. Puis il lui dit, écoutez, maître, moi, quand je regarde votre David, votre sculpture, quand je vois cette sculpture qui est extraordinaire, que je considère comme parfaite, j'y vois aucun défaut. Je la trouve magistrale. Comment vous avez fait votre David? Michel-Ange de répondre, bien écoutez, c'est plutôt simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher un bloc de marbre dans une grotte, pas tellement loin d'ici, puis je sais que ce marbre-là, il est assez exclusif. Je suis allé chercher mon bloc de marbre, je l'ai mis devant moi, je suis allé chercher mes outils, et j'ai regardé mon bloc de marbre, j'ai pris mes outils et j'ai tranquillement enlevé progressivement tout ce qui n'était pas David. Quand on enlève tout ce qui n'est plus Robert, tout ce qui a peut-être déjà été Robert, mais qui n'est plus Robert, quand je me libère de tout ce qui n'est pas Jean-Marie, de tout ce qui n'est plus Jean-Marie, qu'est-ce qui reste? Ben, on a tous et toutes un David à l'intérieur qui ne demande qu'à être révélé. C'est ça notre job. Pour le peu de temps qu'on est sur Terre, notre job, c'est de révéler à l'humanité, aux autres, ce qu'on a de plus lumineux, de plus précieux, de plus riche. Et il n'y a personne qui peut faire ce travail-là à notre place. Donc, on est tous un Michel-Ange, on a tous un David, à nous de le dévoiler puis de le révéler, peu importe le temps que ça va prendre.
Je savais que tu étais pour bien t'arranger.
Ouais, ben j'ai pris mon temps, mon chef. Non, j'irai pas des gros, j'irai pas faire des mots pas fins, mais j'ai pris mon temps. Puis ça, c'est important aussi. Tu m'enseignes ça, puis je le vois, il y a beaucoup de gens qui attendent de laisser monter les mots, les bons mots, les bonnes idées, les bonnes images. On dirait que, hein, Boileau l'a dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Ben, c'est ça. J'ai pris mon temps. Puis avec toi, ben, je suis jamais pressé.
Ouais, merci. Merci pour le mot de la fin, Jean-Marie. J'ai le goût de te dire que je m'aime plus en ta présence.
Wow. Merci. C'est réciproque, mon frère.
Merci à vous tous qui ont été, my God, merci à vous tous qui ont été présents et j'ai hâte de lire vos commentaires dans notre groupe Facebook. Allez-y, soyez généreux. Qu'est-ce que vous retenez de cette magnifique rencontre avec Jean-Marie Lapointe qui est simplement wow. Allez chercher chaque pépite, écrivez-le, mettez-la en place, prenez ce qui s'éveille le plus quand vous regardez les mots que vous avez écrits, qu'est-ce qui s'éveille le plus, prenez chaque mot, décortiquez-les, puis mettez-les en œuvre pour accepter votre différence et accepter la différence de l'autre. Merci tellement, tout le monde. Jean-Marc Lapointe, c'est que je t'aime.
Je vous embrasse puis je t'aime, mon frère. Merci d'avoir été avec nous. À
Merci.
bientôt.